Avant que nous débattions, Philippe Vanier, il n'est pas au programme, mais c'est intéressant que nous l'écoutions, va parler pendant 5 minutes. Il est vétérinaire aquacole et directeur de recherche honoraire. Je crois que vous travailliez naguère à la DGAL et vous avez publié un rapport et vous parlez pour 5 minutes, pas plus, de façon à ce que nous débattions. Merci, allez-y monsieur Vanier.
Merci monsieur, de toute façon je ne suis pas vétérinaire aquacole, je suis vétérinaire mais pas aquacole. C'est pas grave et je ne travaille pas non plus à la DGAL, mais c'est pas grave. Je suis vétérinaire et je suis aussi directeur de recherche.
Directeur de recherche
et je m'appelle Philippe Vanier. Oui,
je vous prie de m'excuser.
Non, je vous en prie. Je voudrais tout d'abord remercier monsieur le sénateur Labbé de m'avoir invité. En quelques minutes, évidemment, il ne sera pas possible d'expliciter les recommandations que j'ai faites dans le rapport qui avait été commandité par la DGAL. Je rappelle néanmoins que beaucoup de ces recommandations avaient déjà été faites lors de rapports et de missions antérieures à la mienne. Ainsi que celles d'ailleurs qui émanent des assises de la conchyliculture, qu'il faut quand même rappeler, qui ont eu lieu en 2010, et il faut aussi rappeler que toutes ces recommandations sont jusqu'à présent restées lettres mortes. Il faudra revenir quand même dans le débat sur les causes de mortalité, parce qu'on n'a pas fait une synthèse globale de cela, et ça me paraît très important. Que faire face à ces crises à répétition? Il y a deux niveaux d'intervention sur lesquels je voudrais insister. Le premier niveau, c'est qu'il est important de mettre en place des actions immédiates de prévention et de gestion des crises zoosanitaires. C'est bien de ce dont je parle. D'autant plus qu'on est, et ça c'est une lapalissade, excusez-moi, mais c'est quand même important de le rappeler, on est dans un milieu ouvert, donc un milieu beaucoup plus fragile que d'autres milieux d'élevage, puisqu'il s'agit quand même d'élevage avant tout. Rien ne peut être géré ni prévenu sans, sur le plan zoosanitaire encore, sans identification et qualification sanitaire des intrants. Et quand je parle des intrants, ce sont les reproducteurs, les naissins et les juvéniles, qu'ils soient d'élevage en écloserie ou qu'ils soient de captage. Aussi, il faut mettre en place rapidement des contrôles sur chaque lot. Et je tiens quand même à dire que la seule qualification sanitaire, zoosanitaire, que j'ai constatée des visu lors de ma mission, était avec une garantie de l'eau de naissin exempt d'herpès virus et de Vibrio astuarianus, avec parfois, pas toujours, mais parfois, une certification par un tiers, par un organisme à tiers indépendant. Ce sont ces protocoles qui ont été mis en place dans les plus grandes écloseries. Les protocoles de qualification des naissins doivent être standardisés, ne le sont pas à l'heure actuelle, mais là aussi, des études ont été faites, notamment à l'IFREMER, mais je les citerai particulièrement parce qu'elles sont allées assez loin dans ces protocoles donc, qui ont été mis en place par le laboratoire Franck Duncombe et Marilyn Noussin et validés par des études terrain au niveau du centre de référence de l'huître, donc Manche-Mer du Nord. Concernant les naissins de captage, il paraît peu réaliste, compte tenu d'où l'on part, c'est toujours la même chose, de mettre en place un contrôle sur chaque lot. Mais une double qualification de la zone de captage en début et en fin de période de reproduction est tout à fait possible et tout à fait réaliste. Qualification, compte tenu de la situation actuelle, qui au départ ne doit pas être contraignante, mais elle doit être évolutive. Comment gérer sur le plan zoosanitaire, sans revoir les modalités de transfert multiples subies par les huîtres, et je pèse mes mots, il faut mettre en place un guide de bonne pratique culturelle, c'est d'ailleurs la recommandation 13 des assises de la conchyliculture qui avait fait l'objet à l'époque d'un consensus, donc de l'ensemble des participants, avec une traçabilité des lots, incluant les pratiques au regard des transferts, des densités et des mélanges de populations d'âge différents qui sont toujours facteurs de risque majeurs en matière infectieuse. Il faut revoir les modalités d'épidémiosurveillance. Avec la mise en place d'une épidémiosurveillance passive syndromique non explicative, car le réseau REPAMO qui est utilisé actuellement est trop peu représentatif et est explicatif. Je pourrais m'expliquer plus tard. Une épidémiosurveillance active complétant la qualification sanitaire sur les agents infectieux dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais ce qui est très important et ce qui n'a pas été fait jusqu'à présent, et je pèse les mots encore, c'est qu'il est important et urgent de mettre en place non seulement une identification, mais surtout une pondération des facteurs de risque des mortalités. Beaucoup de professionnels de par leurs observations, sont convaincus du rôle des facteurs environnementaux, et M. Molot tout à l'heure en a parlé, évidemment, dans ces mortalités, c'est important, mais personne n'a absolument d'argument pour contester et contredire ces observations qui sont tout à fait valables, voire les travaux scientifiques qui ont été faits récemment. Il faut d'urgence mettre en place une enquête multifactorielle, agrégative, intégrative de tous ces facteurs culturaux, génétiques, environnementaux, incluant les pesticides, et infectieux. Enfin, un deuxième niveau d'action, améliorer la cohérence de l'État et la fluidité des décisions en conchyliculture, car l'État actuellement n'est pas cohérent en la matière, mettre en place une coordination nationale, mettre en place un institut technique relevant de l'ACTA, comme les autres filières animales, qui doit conforter et non fragiliser les centres régionaux conchylicoles qui font un excellent travail et qu'il faut absolument conforter en la matière. Améliorer les relations IFREMER professionnelles. Je regrette, moi j'ai eu beaucoup de témoignages et d'exemples de tous bords montrant que ces relations ne sont pas au beau fixe, pour différentes raisons, même si les scientifiques de l'IFREMER sont reconnus et leurs compétences absolument reconnues par les professionnels, et je tiens à souligner.
Conclusion.
S'il y a une incitation financière de l'État, elle doit favoriser les pratiques vertueuses, ce qui n'a pas toujours été le cas. Mettre en place aussi un fonds d'indemnisation sanitaire et zoosanitaire, c'est encore la recommandation 15 des assises de la conchyliculture. Je vous remercie de votre attention.